Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la contestation ne retombe pas contre le gouvernement serbe taxé de corruption et de mauvaise gestion. La mobilisation s'annonce importante cet après-midi à Belgrade où défilent les manifestants, de nombreux jeunes rejoints par des agriculteurs, à suivre dès le début du journal. En Allemagne, le gouvernement est sous pression deux jours après l'attaque sanglante d'un marché de Noël. Il promet une enquête pour clarifier d'éventuelles erreurs des autorités. À Paris, les préparatifs s'accélèrent. Attendu dans les prochaines heures, la composition du gouvernement de François Bayrou. L'eau potable revient peu à peu à Mayotte, 8 jours après le passage du cyclone dévastateur, cyclone qui a tué 94 personnes au Mozambique. Le drame avait fait 15 morts dans l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad en Serbie. Plus d'un mois et demi après, la contestation contre la corruption et contre l'impunité continue à travers le pays avec les jeunes au premier plan. Un nouveau rassemblement important a lieu cet après-midi à Belgrade. La contestation a fait tache d'huile puisque les étudiants devraient être rejoints par des agriculteurs et d'autres membres de la société civile. Écoutez sur ce point Natasha Midjic, une étudiante de Novi Sad, jointe par Jelena Tomic.
Sincèrement, nous sommes tellement fiers de nous, car nous avons réussi avec cette mobilisation à nous prouver à quel point nous étions capables, intelligents, créatifs, et que nous avons trouvé le moyen de faire entendre nos voix. Le problème ici en Serbie, c'est la manipulation de l'information. C'est cette désinformation qui nous a poussés à commencer nos blocages. Des étudiants qui rendaient hommage aux victimes décédées suite à la chute du auvent de la gare de Novi Sad ont été agressés par des individus en raison de ces contre-vérités. L'objectif des blocages dans les universités est de créer un mouvement plus large afin que nos revendications soient entendues. Nous nous tenons au premier rang, devant les citoyens, pour que nos demandes soient satisfaites. Nous voulons que tous les documents concernant la reconstruction de la gare soient publics et transparents et que tous les responsables de la mort des 15 personnes soient jugés. On doit tout faire pour que la justice de notre pays fasse son travail.
Une étudiante de Serbie. En Allemagne, les suites de l'attaque d'un marché de Noël vendredi soir, attaque qui a été fatale à 5 personnes, plus de 200 autres ont été blessés à des degrés de gravité divers. Présenté à un juge hier soir, l'auteur présumé a été placé en détention. Le gouvernement Scholz est sous pression dans cette affaire, on le somme de répondre à certaines questions. Une polémique a enflé au vu du comportement erratique de l'homme signalé depuis des années aux autorités. En réponse, le gouvernement Scholz promet une enquête pour clarifier d'éventuelles erreurs. À Mayotte, dévastée il y a 8 jours par un cyclone, l'aide parvient peu à peu aux habitants, notamment l'eau. L'eau potable est en partie accessible à Mamoudzou, chef-lieu de l'archipel. Et pour la première fois depuis la catastrophe, de l'eau a été livrée au quartier Kaweni, le plus grand bidonville de Mayotte. Le bilan provisoire du cyclone s'élève toujours à 35 morts, 2500 blessés, dont 78 grièvement. Au Mozambique, frappé lui aussi, on déplore près de 100 morts. Direction Haïti, où le gouvernement a renouvelé l'état d'urgence sécuritaire, mesure valable sur tout le territoire pour une durée d'un mois. Elle doit faciliter les interventions des forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité et les gangs armés. L'efficacité attendue suscite des réactions contrastées chez les habitants de la capitale Port-au-Prince. Écoutez le reportage de Peterson Luxama.
Pour beaucoup, cette mesure est un signe que l'État cherche à reprendre le contrôle des zones dominées par les gangs. Sephora, étudiante à l'Université d'État d'Haïti, se dit optimiste.
Selon moi, que c'est une bonne décision.
Selon moi, c'est une très bonne décision. Si le gouvernement utilise l'état d'urgence correctement, cela nous permettra de mobiliser plus de ressources et de moyens pour combattre les gangs.
Cependant, d'autres se montrent sceptiques face à ce qui pourrait n'être qu'une répétition des mesures passées, à l'image de Jonathan Gédéon, économiste de formation.
Je suis très pessimiste quant à l'état d'urgence décrété par le gouvernement. De nombreux états d'urgence ont déjà été décrétés par le passé dans le pays, mais nous constatons que la situation ne fait que se détériorer.
Ce n'est pas Misuel Timothée qui dira le contraire. Selon lui, ces mesures n'auront vraiment aucun effet dissuasif tant que les autorités ne manifestent pas une volonté réelle de combattre les gangs.
Je suis très sceptique. par rapport à tout ce que le gouvernement prône en ce qui concerne cette situation chaotique dans le pays. Je ne vois pas la volonté du côté des autorités de l'État pour mettre un terme, pour stopper les gangs.
Dans la foulée, la police nationale d'Haïti assure avoir renforcé ses dispositifs pour protéger la population à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais pour de nombreux citoyens, seule une action durable contre les gangs pourra réellement ramener la sécurité. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
La défense civile de Gaza annonce 28 morts dans les dernières frappes nocturnes israéliennes. Parmi les victimes, 4 enfants tués dans une école abritant des déplacés. L'armée israélienne ne dément pas. Elle affirme avoir ciblé des terroristes du Hamas. Le pape François a de nouveau dénoncé ce matin la cruauté de ces frappes. Réponse de la diplomatie israélienne. Elle accuse le pape de pratiquer le deux poids, deux mesures, allusion aux violences commises par les Palestiniens. 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad, les nouvelles autorités syriennes continuent de se mettre en place. On connaît maintenant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. La diplomatie syrienne sera dirigée par Assad al-Shibani. C'est lui qui devra continuer de rétablir les contacts avec les pays occidentaux. Ahmed el-Shaare, le nouvel homme fort du pays, a rencontré vendredi à Damas une délégation américaine. 15h06 ici à Paris, où la formation du nouveau gouvernement dirigé par François Bayrou est toute proche. On y est presque. Une annonce est attendue dans les prochaines heures. Les ultimes tractations se poursuivent. Le Premier ministre devait s'entretenir ce dimanche avec Emmanuel Macron. Le point avec Aurélien de Vernois.
Le chef de l'État, de retour de son déplacement qui l'a mené à Mayotte, Djibouti et en Éthiopie ces derniers jours et qui aura son mot à dire sur la liste de ministres qu'est en train d'élaborer François Bayrou. Selon les proches du Premier ministre, celle-ci est quasiment finalisée. Le gouvernement devrait compter 30 membres au maximum et être annoncé en une seule fois, toujours dans le délai fixé, c'est-à-dire avant le 25 décembre. François Bayrou, comme Michel Barnier, ne pourra s'appuyer que sur l'alliance entre le bloc macroniste et la droite républicaine. Mais contrairement à son prédécesseur, issu des rangs de la droite, il devra faire face à une méfiance des troupes de Laurent Wauquiez. Le patron de la droite républicaine a d'ailleurs refusé d'entrer au gouvernement en tant que ministre de l'économie, faute de garantie de François Bayrou sur l'absence de hausse d'impôts. Les sénateurs de droite sont aussi réticents. De quoi encore compliquer l'équation du Premier ministre qui ne pourra pas s'appuyer sur la gauche, même si l'ancien ministre socialiste du Travail, François Rebsamen, a annoncé qu'il était prêt à entrer au gouvernement. Mais ce n'est pas vraiment une prise de guerre. L'ex-maire de Dijon soutient Emmanuel Macron depuis 2017.
Aurélien de Vernois du service politique. J'ajoute que François Bayrou entame sa mission avec une cote de popularité historiquement basse. 66% des Français se disent mécontents du chef du gouvernement centriste, baromètre IFOP JDD. Il en était déjà question dans le journal de 15h. Des images inédites ont été publiées dans des journaux britanniques et brésiliens. Elles montrent un peuple autochtone pas encore contacté qui vit dans la forêt amazonienne. Ce sont des membres des Massaco, photographiés par des appareils automatiques. La présence de cette tribu était connue grâce à des traces, mais les images permettent de mieux les connaître et de constater que leur communauté semble prospérer. Simon Rosé.
Ce sont des clichés pris entre 2019 et 2024, rendus pour la première fois publics. Des petits groupes d'hommes, entre 30 et 40 ans, parfois plus jeunes, en train d'installer des pics dans la jungle. Les Massaco, un peuple qui tire son nom de la rivière, qui passe non loin, mais en réalité, personne ne connaît le nom qu'ils se donnent, ni quelles sont leurs croyances ou structures sociales. Ce groupe est en effet l'un des 61 peuples non contactés, recensés. Leur existence est connue par la découverte de leurs traces. C'est la Fondation nationale brésilienne des peuples indigènes qui effectue ce travail de suivi, et ce sont ces agents qui ont placé les appareils photo automatiques et qui ont permis d'obtenir ces clichés. Leur étude permet de déduire que cette communauté va bien, que sa population est croissante, une tendance qui s'est inversée depuis une trentaine d'années. Jusqu'à la fin des années 1980, la mission de la Fondation était justement d'entrer en contact avec ces communautés qui faisaient obstacle au développement économique de la région. Cette démarche s'est révélée catastrophique, maladie et misère accompagnant leur rencontre avec le reste du monde. Depuis, la stratégie est opposée et la région de Massaco est exclusivement réservée à cette communauté.
Simon Rosé, enfin en football, au programme ce week-end, les 32e de finale de la Coupe de France. Programme dominé par un match phare, le déplacement à Lens du Paris Saint-Germain, le tenant du titre. En championnat, Paris survole la Ligue 1. L'équipe entraînée par Luis Enrique compte avant la trêve 10 points d'avance sur Marseille et Monaco, ses deux poursuivants. Voilà, prochain journal 16h avec Charlotte de Rouen. Tout de suite, bonne pulsation du monde. Très bonne journée sur RFI.